Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
C'était son coup d'essai, ce fut un coup de maître. Il était critique, il est devenu cinéaste en passant de l'autre côté pour donner corps à un personnage qui lui ressemblait presque trait pour trait. Stéphane Bern dresse le portrait de celui qui a fait les 400 coups en surfant sur la nouvelle vague, François Truffaut.
C'est l'histoire d'un enfant rêveur qui préfère parfois l'école buissonnière à ses cahiers de conjugaison. Il ment à ses parents ou ses professeurs, mais un jour vient le mensonge de trop.
Monsieur, c'était ma mère, monsieur.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore?
Elle est morte.
Ah, fichtre. Excuse-moi, Monty, je pouvais pas savoir.
Honteuse affabulation qui, contrairement à ce que croit le jeune Antoine Douanel, ne réglera pas ses problèmes, bien au contraire.
Monsieur le directeur, j'estime que la sanction doit être à la mesure.
Mais la mesure est dépassée, mon cher. Nous sommes dépassés par l'anomalie d'une telle faute. Seuls les parents pourront le sévir.
On s'expliquera tous les deux ce soir à la maison.
Il ne rentrera pas chez lui. Et des petites bêtises, il glissera ensuite vers les fugues, les vols et la maison de correction. Des péripéties entre amusement et inquiétude qui écrivent la chronique d'un adolescent qui prend simplement plaisir à faire les 400 coups, comme l'indique le titre du film sorti sur les écrans en 1959. Un film qui marque en son temps les esprits, qui raconte l'enfance comme jamais auparavant, avec un naturel déconcertant. Un film qui se termine sur un audacieux travelling qui emmène le spectateur dans une libératrice course vers l'océan et s'achève sur un non moins audacieux regard à la caméra, comme si le comédien, autant que le personnage, savait déjà qu'un lien bien singulier allait se créer avec le public. À la fin des années 50, une telle façon de filmer est totalement novatrice, loin du cinéma engoncé dans des codes esthétiques surannés. Le public et la critique ne s'y trompent pas, car les 400 coups remportent cette année-là le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Jean-Pierre Léo, le jeune comédien qui incarne Antoine, est porté en triomphe à la sortie de la projection et le réalisateur de 27 ans, François Truffaut, est ovationné pour ce qui est alors son premier long métrage. Antoine Douanel, Jean-Pierre Léo, François Truffaut. Trois noms, liés à jamais par le cinéma. Deux hommes bien réels et un personnage fictif dont les vies s'imbriquent. Car les aventures que traverse Antoine Douanel, dit Truffaut, ce sont les miennes. Et ces aventures sont indissociables de Jean-Pierre Léo qui les incarne. La vie d'Antoine, racontée dans les 400 coups, est donc celle de son metteur en scène. Tout y est. Une jeunesse dans le Paris populaire, entre une mère distante et un père un peu lâche, qui n'est d'ailleurs pas son vrai père. Un adolescent turbulent qui préfère traîner dans les cinémas que sur les bancs de l'école et qui subit les affres d'une société qui, même pour les enfants, ne semble pas aimer la liberté. Dans une jeunesse chaotique, la seule certitude de François Truffaut, c'est qu'il aime le cinéma. Il en est imprégné jusqu'à l'os. Renoir, Vigo, Rossellini et d'autres. Puis après-guerre, le cinéma américain vient satisfaire un appétit qui vire à la boulimie. Au point que François Truffaut décide en 1948 et à seulement 16 ans de fonder un ciné-club dans une salle du quartier Saint-Germain, louée pour l'occasion les dimanches matins. Face à la concurrence d'un ciné-club tout proche, il va innocemment demander à son rival s'il peut changer de jour de projection. Plus qu'un simple jour, cette rencontre va changer sa vie, car cet homme, c'est André Bazin, un grand et influent promoteur de l'art cinématographique qui va se révéler être un véritable père spirituel. C'est à ses côtés que Truffaut devient critique, notamment au Cahier du cinéma, la revue fondée par son mentor en 1951. Dans la rédaction, ainsi qu'à la cinémathèque qu'il fréquente avec assiduité, il rencontre toute une bande qui incarnera plus tard la relève du cinéma français. Chabrol, Rivette, Godard ou Romère, entre autres. Avant donc de devenir cinéaste, Truffaut est cinéphile. Mais sa plume est crainte dans le milieu et ne lui amène pas que des amis. Avec ses camarades, il prône un renouveau total du cinéma et face à l'inertie de leurs aînés, eux-mêmes vont s'en charger. Après quelques essais et courts-métrages, Truffaut réalise les 400 coups avec le triomphe qu'on lui connaît. Ce succès ouvre la voie à ce que la critique nommera la nouvelle vague. Un groupe sans programme, simplement partisan de rajeunir le cinéma, comme le résume le réalisateur. On quitte les studios et leurs lourds équipements. On oublie les projecteurs qui sculptent l'ombre et la lumière pour leur préférer la clarté du jour et la chaleur du naturel. Les metteurs en scène s'expriment pleinement, sans se soucier de glorifier à tout prix des vedettes prestigieuses. Loin de la théâtralité, on raconte les choses autrement. Il ne se passe parfois rien. Ni sang, ni coup de poing, ni drame, ni violence, mais une suite de petits accidents quotidiens qui composent la matière d'un film, explique Truffaut. C'est dans ce renouvellement que sa carrière se lance et que son œuvre prend un aspect quasi unique en faisant revenir un personnage et un acteur à différents moments de sa vie. Le jeune Antoine Doinel des 400 coups va réapparaître. De ses 13 à ses 33 ans, 5 films racontent son adolescence, ses amours, son mariage et son divorce dans une suite qui n'est pas linéaire, dont chaque partie peut être comprise indépendamment, mais qui reprend les temps forts d'une vie. Si l'on regarde maintenant les 400 coups, on peut déjà savoir ce qu'est devenu son héros, on peut comprendre ce que signifie ce regard adressé à la caméra à la fin du film. Ceci est tout à fait unique dans le 7e art, et l'on imagine ce que représente pour le comédien Jean-Pierre Léo le fait d'avoir vieilli en même temps que le personnage qu'il incarne. Il se crée une sorte de synthèse entre l'acteur et le réalisateur qui le dirige, en mettant un peu de lui-même dans le personnage qui n'existe pas sans son interprète. L'on s'y perdrait. Mais aussi important qu'il soit, Antoine Doinel n'est pas la seule récurrence dans l'œuvre de Truffaut, faite de réminiscences et d'obsessions. Sur 21 longs métrages que Truffaut a réalisés, il n'y a pas qu'un unique personnage, mais de nombreux thèmes qui se répètent. Celui de l'enfance en général, bien sûr, celui de l'amour, de la séduction, celui d'une obsession pour les femmes. Les femmes sont des personnages affirmés. Elles sont fortes quand les hommes sont fragiles. Elles assument leur vie, leur puissance, quand les hommes, éternels enfants, vivent dans la peur des déconvenus. Dans le célèbre Jules et Jim, sorti en 1962, film narrant les errements d'un trio amoureux, Jeanne Moreau incarne le pivot. Elle n'est pas la maîtresse maltraitée, elle n'est pas un faire-valoir, mais le centre, le nœud de l'histoire.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Les femmes, ce sont aussi des actrices, avec qui François Truffaut a souvent des histoires d'amour, comme si là aussi il ne pouvait séparer son travail de sa vie. Et quand le désir n'est pas charnel, il y a parfois un rapport étonnant à la comédienne, entre admiration et prédation. Ainsi, après avoir filmé Isabelle Adjani quand elle avait 19 ans, il raconte « J'ai voulu tourner avec Isabelle Adjani très vite, de toute urgence, car je pensais que je pouvais, en la filmant, lui voler des choses précieuses. Je l'ai volée, alors qu'il était encore temps. Mais ce qu'il vole, ce n'est pas pour lui, c'est pour son art. Le cinéma n'est pas qu'un métier, ce n'est pas une activité, c'est une inclinaison totale, omniprésente, si importante pour lui qu'il en vient à parler de cinéma au cinéma. » J'adore tourner, dit-il. Quand on tourne, on est hors du temps. On n'achète plus de chaussettes, on ne va pas chez le dentiste, ni même chez le coiffeur. C'est exactement ce qu'il montre dans La Nuit américaine, sorti en 1973, film dans lequel il incarne lui-même un réalisateur aux prises avec tous les déboires et péripéties d'un tournage. Le metteur en scène joue le metteur en scène et ce film en train de le faire, comme si la boucle était bouclée. Le succès du film, qui obtient l'Oscar du meilleur film étranger, montre en tout cas qu'il le raconte avec brio et qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Il collabore avec de fidèles auteurs et a toujours plusieurs scénarios prêts à être mis en image. Étant son propre producteur et jouissant d'un grand succès, rien ne semblait devoir l'arrêter. Si ce n'est la fin de l'histoire quand il meurt prématurément, à l'âge de 52 ans, des suites d'une tumeur cérébrale. Il ne pourra malheureusement pas aller plus loin, mais laisse en revanche au cinéma français un immense héritage.